RCF.
Patrick Lemoine, pour conclure ces entretiens consacrés à ces génies à qui vous consacrez un livre paru aux éditions Odile Jacob, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur le génie probablement le plus important du cinéma. Je veux parler de Charlie Chaplin, à qui vous consacrez un de vos chapitres. Avec une silhouette, on le reconnaît, il a su imposer ce personnage de Charlot. Qu'est-ce qui vous évoque à vous ce personnage ?
Mon enfance, forcément, mais aussi ma vie d'adulte, puisque je pense que c'est une des seules fois où, en tant qu'adulte, j'ai pleuré au cinéma, aux Lumières de la Ville. C'est un film que je trouve bouleversant, de beauté, de poésie. On voit ce personnage de modeste, de clochard, amoureux, mais tellement fragile, tellement sensible, tellement délicat avec cette jeune fille. Chaque fois avec les femmes, il est tellement délicat qu'il n'ose même pas se déclarer, qu'il se sacrifie régulièrement, dans le cirque aussi, il se sacrifie à la fin, sans même oser avouer sa flamme. Et donc, je le trouve extrêmement émouvant.
C'est un perdant magnifique, mais pas toujours, c'est aussi parfois un gagnant.
Dans la vie, oui.
Dans la vie, oui.
Mais au cinéma, presque toujours perdant. Mm-hmm. L'amoureux est conduit.
Et puis, il a eu des intuitions incroyables, historique même.
Le Dictateur est quand même effectivement un grand film là-dessus.
Qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale.
Mais cette caricature qui fait de Hitler, dont plusieurs personnes lui avaient dit qu'il se ressemblait, avec la même moustache, la même taille à peu près. Donc il a osé incarner Hitler, il a trouvé un complice pour faire Mussolini. Et cette satire au vitriol qu'il a faite des deux dictateurs, rien que pour ça, il faut le porter au nu. Même si je trouve que le discours de la fin est quand même très filandreux, on s'ennuie un peu quand même. C'est trop long, ce discours final où il parle.
Génie du bien, Charlie Chaplin ?
Alors oui et non. En gros, 50-50, parce que effectivement, il a fait du beau, il a fait progresser le cinéma, il a ému des nations, il a été capable quand même de donner $1 million à Coluche quand il a créé les Restos du Cœur, en disant « je ne donne pas cet argent, je le rends, parce que j'ai toujours été un clochard, et je rends au clochard que j'étais ». Il a eu une enfance un petit peu à la Cyrulnik, il s'est retrouvé dans la rue.
C'est un résilient.
C'est un résilient, exceptionnel. Et comme tous les résilients, il y a des cicatrices douloureuses. Mais il n'a pas eu la capacité de sublimation aussi forte que chez Boris Cyrulnik, qui est archi ni du bien, lui, complètement. Et lui, quand même, il aimait énormément les sous, il faut bien le dire. Et puis, il aimait beaucoup la chair fraîche. C'est-à-dire qu'il a eu une collection de jeunes femmes, parfois de très jeunes femmes, qui lui ont été reprochées, qui lui ont soutiré aussi des pensions alimentaires plus que confortables, qui, à mon avis, l'ont également roulé dans la farine, parce que celle qu'il a accusée de pédophilie, parce qu'effectivement, il l'a connue au sens biblique très jeune, elle était enceinte. Quand on regarde les photos, franchement, elle est très pulpeuse, on lui donnerait facilement 25 ans. Donc je crois qu'il s'est fait avoir. Mais malgré tout, il a été un père de famille et un mari exemplaire sur les 30 ou 40 dernières années de sa vie. Mari fidèle, il a élevé ses enfants avec des belles réussites, comme Géraldine Chaplin. Donc je pense que la deuxième partie de sa vie rachète largement ses frasques.
Suite de l'histoire.
Sans transition, Patrick Lemoine, j'aimerais maintenant qu'on aille du côté des mystiques, et notamment avec une figure qui, j'ose le dire, dans votre livre, en prend pour son grade. Et à tous ceux qui sont des inconditionnels de Saint-Dominique, je préviens, attention à ce que vous allez entendre.
Accrochez vos ceintures. Oui, Saint-Dominique... Je fais toujours le parallèle entre Saint-Dominique et Saint-François d'Assise, qui étaient contemporains, tous les deux créés un ordre prêcheur, mais dont l'un était tout de douceur et de tolérance, je parle de Saint-François d'Assise, et l'autre qui était quand même plus du côté du fanatisme. Même si on me dit « tu fais un anachronisme, replace-toi dans le stade de l'époque », la croisade des Albigeois, c'était normal pour l'époque. Moi, je veux bien, mais Saint-François d'Assise, il n'a jamais été dans un des Albigeois, il n'a jamais soutenu ce genre de choses. Or, Dominique, eh bien, il suivait les armées Louis VIII, puis Saint-Louis, qui ont massacré, rappelez-vous, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, le fameux archevêque de l'époque. Bref, Dominique n'a jamais condamné la croisade des Albigeois, il n'a pas combattu, mais il suivait quand même les armées, et quand il rentrait dans les villes dévastées, eh bien, il convertissait le peu qui restait. Et puis, et il faut bien le dire, c'est sous son influence que le pape a vraiment mis en forme l'inquisition. Dominique n'a jamais été inquisiteur, mais on peut dire quand même que c'est le patron des inquisiteurs. La plupart des inquisiteurs ont été des dominicains, dont l'abominable Torquemada. Donc si aujourd'hui les dominicains sont un ordre exemplaire de lettrés, de, on va dire presque d'aristocrates de la pensée mystique, que j'admire beaucoup, que je respecte énormément, la pensée est quand même lourde.
On lui redit notre amitié quand même. Faisons peut-être le portrait de deux femmes, grandes mystiques, grandes croyantes, Mère Teresa et puis Sœur Emmanuel. Est-ce que vous les mettez sur le même plan ?
Mais là encore, je fais presque un anachronisme parce que Mère Teresa était une albanaise, une finalement très catholique, très chrétien, alors que Sœur Emmanuel, ben, elle est en Belgique. Et c'est pas du tout donc la même culture. Ce qu'on peut dire de Mère Teresa, c'est qu'elle a fait des choses extraordinaires. Ce mouroir, ses orphelines, enfin, elle a fait des choses exceptionnelles. Mais malgré tout, elle était vraiment cette croyance que malheureusement beaucoup de catholiques ont véhiculée, qu'une valeur d'âme, que pour accéder par la vie, il fallait énormément souffrir. Lorsque Mère Teresa raconte elle-même que dans un de ses mouroirs, elle avait interdit les interdits, un homme qui était en train de mourir, qui souffrait d'un ostéosarcome, c'est horriblement douloureux. Et elle lui tenait la main et disait, je souffre, ma mère, je souffre. C'est Jésus qui te tend la main, qui te donne la main pour t'emmener au ciel. Dites-lui d'arrêter, ma mère. Elle le dit ça sans aucun humour. Donc ça, je trouve c'est très dur en tant que médecin à interdire les antalgiques. Je trouve c'est dur. Mais le problème, c'est que quand elle était malade, elle allait plutôt dans des cliniques de luxe. Et je serais bien surpris qu'elle n'eût pas eu, à l'époque, des antalgiques. Et ça, j'ai un peu de mal à lui pardonner. Et puis, elle a eu quand même des contacts avec des dictateurs peu fréquentables, comme Duvalier, comme Marcos. Et ça, c'est un peu dur aussi. Et
on
puis, c'était aussi une star des médias, aussi.
On dit qu'elle était dure, parfois, très avec dur. Ses sœurs aussi.
Très, très dure, oui. Oui, oui. Non, elle avait un petit côté dictateur. Mais bon, c'était aussi son contexte culturel de l'époque. Et puis, elle a fait des choses magnifiques. Mais, à côté de Sœur Emmanuel, que j'adore.
Alors, Sœur Emmanuel, qui était quand même aussi une star des médias, qui savait très, très bien les utiliser.
Absolument.
Elle n'était pas naïve, hein.
Non, mais elle avait un tel humour, une telle autodérision, cette complicité avec l'abbé Pierre, avec Coluche, toute cette époque. Moi, je les adore, ces trois personnages. Sœur Emmanuel, je ne trouve pas de défaut, c'est simple. C'est vrai que c'était une star des médias.
Ça, il paraît qu'elle avait quand même un sale caractère aussi, hein.
Avoir du caractère. Elle avait du caractère. Dire qu'elle avait un... L'abbé Pierre aussi n'était pas commode, hein. Il n'était pas facile. Mais c'est
ce
des
qui fait
gens
des génies
ont...
aussi.
Oui, je pense vraiment, c'est des génies. Et je les mets tous les quatre, hein. Coluche, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, Mère Teresa. Pour moi, c'est des génies. Quand même du bien, même si Mère Teresa, j'ai baissé sa note. Mais les autres, je les mets très haut. Même si Coluche était un état limite, délinquant. Bagarreur,
est-ce que c'est qu'un état limite ?
État limite, c'est une maladie particulière, en gros, où je cogne puis après je réfléchis, j'agis et après je réfléchis. Donc c'est impulsivité et abandonnisme. Il est mort, paix à son âme, mais on peut dire par exemple que le prototype de l'état limite, c'est Johnny Hallyday, qui pouvait à Lyon casser la gueule du directeur du Palais d'Hiver parce que la sono n'était pas bonne, mais qui avait le cœur sur la main et qui avait plein de parasites. Qui couvrait d'or, quitte à se ruiner parce qu'il voulait pas être abandonné, il avait toujours cette peur de l'abandon, dont j'ai connu le père qui l'avait abandonné et qu'il a abandonné à son tour. Donc c'est vraiment une histoire d'abandon, de générosité et de passage à l'acte avec l'alcool, la drogue, les bagarres, la délinquance. Et Coluche était dans le même registre. Il a terminé. Il était capable, par exemple, de débarquer avec sa bande de motards. Ils étaient complètement shootés, de défoncer les vitrines, de faire le coup de poing. Et en même temps, même si c'est la justice qui lui avait demandé de faire des travaux d'intérêt général, a été capable d'inventer les Restos du Cœur, qui est un truc absolument magnifique.
Avec, c'est un coup de génie, les Restos du Cœur ?
Oui, je crois. Je crois vraiment.
C'est-à-dire ?
Je crois vraiment. Eh bien, personne n'avait eu cette idée. Il est allé beaucoup plus loin que le Secours catholique, beaucoup plus loin que le Secours populaire. Il a réussi à faire un mouvement de solidarité avec les Enfoirés, qui est aussi un autre coup de génie. Donc je pense qu'il a eu des coups de génie. Et puis, ça, enfin, c'est dans mon livre, mais dans la campagne présidentielle, il a eu des traits d'humour absolument extraordinaires.
Enfin, avec beaucoup d'excès, en tout genre.
En tout. Il était excessif en tout. Mais les génies sont excessifs, même... Sœur Emmanuel est excessif dans le bien, Mère Teresa aussi, Léonard Vinci était excessif en tout, donc un génie doit être excessif. Rares ceux qui ne le sont pas, il y en a quand même, hein. Jean-Sébastien Bach, grand mystique aussi, un homme pathologiquement normal, il était incroyablement bon père de famille, bon mari, bon fonctionnaire de la musique, sans ambition, toujours dans des postes de seconde zone.
Et pourtant génial.
Et c'est avec Mozart et Beethoven, c'est les trois plus grands génies, selon moi, de la musique de tous les temps. Alors que Mozart, lui, était complètement bipolaire, complètement farfelu, un grand enfant aussi, peut-être un petit peu Asperger aussi sur les bords. Donc tout le monde peut être un génie, tout le monde n'a pas la chance d'y arriver, mais on peut avoir toutes les pathologies du monde, et voir être normal et être quand même génial.
Ça nous laisse de l'espoir.
Oui.
Merci beaucoup, Patrick Lemoine, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, La santé psychique des génies. Génie du bien, génie du mal, c'est un livre que vous avez publié aux éditions Odile Jacob. Et puis il y a son grand frère, paru en 2020, qui s'appelle La santé psychique de ceux qui ont fait le monde. Encore merci.
C'est moi qui vous remercie.